France Musique.
Bonjour à tous, bonjour Émilie.
Bonjour Rodolphe, on repart avec Simon Rattle et le Philharmonique de Berlin pour notre grande semaine et puis un Requiem de Forêt par Philippe Hervaeg.
Et on repart ensemble jusqu'à 10h30.
Thank you.
enregistrements rares de la pianiste Annie Fischer. Et je vous avoue, j'adore cette musicienne hongroise morte en 1995. Elle avait un caractère bien trempé, elle allumait sa cigarette dès qu'elle sortait de scène, elle prenait des risques au piano, et ça s'entend ici, dans cet impromptu de Schubert. Et puis ses interprétations sont toujours marquées par une sorte d'urgence de feu qui, des années après, nous touche encore avec ce qu'on vient d'entendre, surtout ici. Il s'agit, vous allez l'entendre dans un instant, de son unique enregistrement de la première sonate de Schumann, une œuvre qui est finalement relativement peu jouée et à laquelle elle donne un souffle épique. Et c'est pas pour rien que Richter lui voit une admiration sans borne. Annie Fischer, et c'est donc un document rare et précieux qui est remasterisé et republié ici. En 1975, elle est à Londres, elle joue au Queen Elizabeth Hall, et en fait, il y avait une coutume, paraît-il, pour les musiciens qui allaient donner un récital là-bas, on leur proposait un ou deux jours avant de venir à la BBC enregistrer leur concert pour avoir une sorte de sécurité. Et c'est ce qu'a fait Annie Fischer, sauf que elle faisait qu'une seule prise. Il paraît qu'il y avait des moments où des musiciens faisaient 25 fois la même prise. Elle, en une seule prise, ça a été plié. Et c'est cette prise qui est publiée aujourd'hui. C'est un document précieux, je trouve. Et donc, on va écouter le premier mouvement de cette grande première sonate de Schumann. Thank you. Très belle version de cette première sonate de Schumann par Annie Fischer. Ça fait partie de ces disques qui s'appellent ICA, ICA, cette collection qui remasterise des enregistrements de radio et qui les publie. Et donc Annie Fischer enregistre ici la première sonate de Schumann et les impromptus de Schubert.
Nous étions donc à Londres.
Oui,
direction
en 75.
Direction Berlin.
Thank you.
un coffret de 44 disques qui nous raconte la belle histoire entre le Philharmonique de Berlin et celui qui fut son directeur musical, Simon Rattel. Et il a développé du répertoire, c'est ce que je vous ai dit hier. L'orchestre avait aussi envie de jouer des œuvres qu'il n'avait pas auparavant interprétées. Et notamment le répertoire russe avec cette deuxième symphonie de Borodine qui ne faisait pas partie du répertoire standard de l'orchestre. Je me suis dit, je pense qu'elle ne fait pas partie du répertoire standard des orchestres. C'est dommage, vous avez entendu qu'il y a beaucoup de belles choses dans cette symphonie. Et puis, il a aussi joué avec ce Philharmonique de Berlin, Tchaïkovski, Stravinsky, Shostakovich et Rachmaninov. Non pas les symphonies, mais les danses symphoniques. Et puis, une œuvre qui n'est pas si souvent donnée, finalement, face aux symphonies, ce sont les cloches.
Thank you.
Les cloches de Rachmaninov avec la voix de Dmitri Popov, le chœur de la radio de Berlin et le philharmonique de Berlin dirigé par Simon Rattle. L'orchestre a beaucoup changé sous son mandat. Déjà, il est entré dans l'univers numérique et ça, c'est souvent une grande révolution pour les orchestres avec le Digital Hall Concert qui permet de suivre les concerts pour les mélomanes du monde entier via une plateforme internet. Et puis l'effectif a changé aussi. 53 musiciens ont rejoint les rangs de la formation. Une vingtaine de nationalités est représentée. Et voilà ce que nous dit Simon Rattle. Les philharmoniques, lorsqu'ils jouent, les philharmoniqueurs se meuvent comme une nuée d'oiseaux. Et on se rend compte à quel point les nouveaux arrivants apprennent petit à petit à faire de même sans y penser. Il a souvent été applaudi, ce chef, pour les sonorités opulentes, les riches couleurs qu'il savait faire naître de l'orchestre, la chaleur des cordes aussi. Mais il ne faut pas oublier l'énergie, comme on l'entend dans la burlesque du premier concerto pour violon de Chostakovitch.
Thank you.
La burlesque du premier concerto pour violon de Shostakovich, c'était Sarah Chang au violon avec le Philharmonique de Berlin dirigé par Simon Rattle, ce coffret que l'on continuera d'écouter dès demain.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Et voici le disque du jour. Il est tout rouge et il est très étonnant comme disque. On le doit à Philippe Hervègue avec l'Orchestre des Champs-Élysées. Un disque autour de la mort. Alors, c'est pas forcément un répertoire joyeux, mais vous allez voir, c'est une mort qui est sublimée du côté du Requiem de Fauré qu'on va entendre dans un instant. Et puis, il y a aussi une œuvre rare qu'on entend presque jamais de Brahms qui s'appelle Le Chant d'Enterrement. Je sais pas si vous connaissez cette pièce, Émilie. C'est l'opus 13.
Souvent.
C'est composé 10 ans avant le Requiem. La formation est très curieuse. Chœur et des instruments avant, 12 ans et timbales. Et ça va inspirer, nous dit-on, le Requiem allemand de Brahms qui mûrissait déjà dans son esprit à cette époque. Et donc voici ce que c'est, une pièce qui dure 7 minutes. C'est Philippe Hervègue, l'orchestre des Champs-Élysées. Et c'est donc, alors je ne vais pas le dire en allemand parce que je vais mal le dire, mais c'est en français le Chant d'Enterrement, opus 13 de Brahms.
Thank you.
enregistré en public, comme vous l'entendez, pour le label...
De l'Institut Chopin.
Voilà, de Varsovie. On reçoit beaucoup de disques et de moins en moins de disques qui ont des liens avec Chopin.
Oui, là,
c'est vraiment
fait.
Très étonnant de voir Philippe Hervègue, l'orchestre des Champs-Élysées, enregistrer ce chant d'enterrement opus 13 de Brahms. Et c'est donc couplé avec le Requiem de Forêt. Et ça, c'est important parce que vous savez qu'en 1988, Philippe Hervègue a été le premier à enregistrer une version révisée de ce Requiem de Forêt, un disque pour Harmonia Mundi qui a été multi-récompensé, qui était très important pour un effectif instrumental moins copieux. C'était la version, la fameuse version de 1901 qui avait été faite par Jean-Michel Nectou, musicologue qui connaît évidemment très bien l'univers de Forêt. Et donc depuis, eh bien, Philippe Hervègue est devenu un peu le spécialiste de ce Requiem et donc on est très heureux ici de voir une nouvelle version de ce Requiem de Forêt. C'est très beau comme toujours avec ce que fait Philippe Hervègue. C'est notre disque du jour sur France Musique que vous pouvez le réécouter et le podcaster.
Thank you.
C'est notre disque du jour sur France Musique, le Requiem de Fauré. L'orchestre des Champs-Élysées, Philippe Hervègue. Donc ça fait partie de ce disque tout rouge de l'Institut Chopin avec ses deux œuvres. On réécoutera ce Requiem parce que c'est une belle version, différente de la version Harmonia Mundi de 1988, puisque c'est ici en public, vous l'avez entendu. Mais il y a vraiment une histoire entre ce chef, Philippe Hervègue, et cette œuvre, le Requiem de Fauré.
Vous écoutez France Musique et En Piste, il est 10h05. Ce matin, c'est la voix dans tous ses états. Donc on va maintenant...
Oui, on a eu du cœur.
Voilà, et bien il va encore y avoir du cœur dans ce que vous allez entendre au long de ces minutes qui vont passer. Mais en tout cas, c'est une toute autre époque. En août dernier, je dois avouer que j'ai découvert David et Jonathas de Charpentier. Je ne sais pas si vous connaissiez bien cette œuvre.
Non, mais grâce à vous,
aussi,
maintenant mais... un peu mieux, parce que vous m'en parlez souvent.
Eh bien, on l'a...
Vous préférez lequel, d'ailleurs?
Mais à chaque fois, vous me demandez, écoutez,
Mais
si, bah, tous les six mois, tous les six mois, vous m'avez déjà demandé. Moi, je n'arrive pas à me décider dans cette histoire d'amitié. Vous avez une préférence?
David.
D'accord, ok. Eh bien, ce sont en tout cas les meilleurs amis du monde, mais ils vont devoir se battre l'un contre l'autre, car ils ne font pas partie du même clan et de la même armée. Et donc, en août dernier, on a entendu la version de l'ensemble Marguerite Louise, avec dans le rôle de David, le ténor Reinoud von Michelen, et dans le rôle de Jonathas, la soprano Caroline Arnoux. Et aujourd'hui, c'est la version des pages et chantres du Centre Musique Baroque de Versailles, avec les temps présents dirigés par Olivier Schnebeli. Et cette version est étonnante. Pourquoi ? Parce que le chef a choisi de confier le rôle de Jonathas et des petits rôles aux voix d'enfants les plus hautes des pages. Et ce fut le cas, précise-t-il, au temps de Charpentier. Donc pas si étonnant que ça si on remonte les siècles, mais peut-être un peu plus étrange pour nous.
Ce sont des enfants qui font la guerre alors.
Oui, alors des enfants et des adultes sont un petit peu mélangés dans ce David et Jonathas. Alors voici Jonathas. La voix de Jonathas, c'est Natacha Boucher et c'est ce qu'on dit à l'époque. Olivier Schnebeli nous raconte qu'à l'époque de Charpentier, effectivement, les voix d'enfants ou de jeunes adultes incarnaient aussi ces héros d'oratorio ou d'opéra. Et c'est un disque émouvant parce qu'il nous fait aussi entendre le tout dernier concert d'Olivier Schnebeli en tant que directeur musical du Centre de musique baroque de Versailles au terme de 3 décennies. Et c'est donc un témoignage du travail qu'a fait ce chef. Et puis c'est une belle pièce qui finit mal, hein. C'est une histoire d'amitié, mais c'est comme les histoires d'amour, en général, ça se finit pas bien, puisque Jonatas meurt dans les bras de David, et puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une poignante lamentation de David, que j'ai donc découverte il y a quelques mois, et que j'aime énormément depuis. Jamais amour plus fidèle et plus tendre utile un sort plus malheureux. Voilà la lamentation de notre héros pourtant victorieux.
Thank you.
vous avez entendu cet air, extrait de David et Jonatas, de Charpentier à Clément Debieuvre, et puis les pages et chants du Centre de musique baroque de Versailles, les temps présents, Olivier Schnebeli qui prend sa retraite, qui quitte la maîtrise du CMBV après 30 ans passés là-bas, et il a donc décidé d'enregistrer cet opéra, cette œuvre de Charpentier.
Il est 10h05, vers 10h20, on va vous faire gagner un disque, Émilie, ce sera Elgar, je crois.
Elgar, avec Renaud Capuçon et Simon Rattle, qui est notre grand chef de la semaine.
Bon, et puis du violon, bah tout de suite, je voulais revenir juste sur très rapidement sur un disque que j'ai adoré de Svetlin Rousseff, un disque qui parle d'amour, love music, et on vous offre ce matin un petit brin de romarin. C'est la musique de Kreisler. C'est juste un petit clin d'œil, un petit rappel. Si vous cherchez un disque de violon par un grand violoniste, aujourd'hui un disque frais qui parle d'amour et qui est merveilleusement joué, eh bien c'est celui-ci peut-être qu'il faut acheter, La Belle Naïve. C'est Svetlin Rousseff, ici la musique de Kreisler, Schön Rosmarin, et c'est Yeol Ömsen au piano.
On retourne à Fauré après le Requiem que vous avez fait entendre tout à l'heure et une intégrale de sa musique pour piano avec un petit débat sur les réseaux sociaux.
Oui, j'ai vu ça.
Bah, vous avez vu ça vous aussi autour de cette intégrale de Lucas Debargue, notamment sur les notes
d'intention du livret. Sur le son du piano aussi, j'ai vu ce qui serait qu'il enregistre sur le piano opus 102.
Oui, tout à fait, de Paul Hélo.
Qui divise.
Et alors, en revanche, quand j'ai passé moi cette intégrale il y a quoi une petite semaine, 10 jours, on a eu beaucoup de messages d'auditeurs qui la trouvent absolument superbe et qui sont très contents d'entendre la musique de Fauré jouée par Lucas Debargue. Alors, je voulais y revenir avec un nocturne, le dixième. Thank you. Le 10e nocturne de Forêt par Lucas de Bargue qui signe donc une intégrale de sa musique pour piano qui vient tout juste de sortir. France Musique. Un long disque à gagner aujourd'hui,
oui,
mais l'œuvre le mérite. Alors oui, alors long, j'allais dire ce que vous allez entendre longtemps, parce que le concerto pour violon d'Elgar est une très grande œuvre qui fait presque une heure, et on va entendre son final joué par Renaud Capuçon et notre chef de la semaine, Simon Rattle.
Oui, et on vous le parle. C'est une question, faut avoir écouté l'émission. Mm-hmm. Depuis le début de la semaine, on vous présente Simon Rattle, dirigeant un orchestre allemand. Quelle est la ville de cet orchestre ? S'agit-il de l'orchestre de Hambourg, de Dresde ou de Berlin ? Hambourg, Dresde ou Berlin ? Votre réponse, francemusique.fr, l'émission en piste.
Thank you. Le final du concerto pour violon d'Edouard Elgar, c'était Renaud Capusso au violon, Simon Rattle à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres, mais l'orchestre qu'il a dirigé pendant si longtemps et avec lequel on vous le fait entendre toute cette semaine.
C'est Berlin, Berlin, bravo, merci pour vos bonnes réponses.
Et on se retrouve demain, merci à Stéphane Poitvin, merci à Léa Gramusset et Karine David.
À réécouter sur francemusique.fr.